Bonjour et bienvenue à l'émission Les Voix de Service Magazine, édition du 12 octobre 2017. C'est Marie Lalande qui vous parle. Avec moi en studio, je salue mes collaborateurs, Monique Kirouac.
Bonjour Marie.
Bonjour. Et Yvan Deslauriers.
Bonjour Marie.
Alors, allons-nous parler ce matin, Monique?
Alors, vous vous demandez peut-être si la vaccination annuelle contre la grippe est essentielle?
Oui.
Eh bien, même les scientifiques s'interrogent sur la pertinence de ce rite annuel.
Oh.
Alors, l'article que j'ai choisi est très riche en informations, ce qui fait que je le lirai en deux parties.
Oh, on a hâte.
La première partie va parler des résultats d'analyses faites justement par des scientifiques à l'égard de son efficacité à ce vaccin. Et la deuxième décrit sommairement ce que fait, comment se fait le vaccin et donne des hypothèses, en tout cas une piste pour peut-être le rendre plus efficace.
Hey, mon Dieu, ça nous intéresse vraiment. Mmh, oui. Ouais. Et Yvan?
Moi, de mon côté, deux sujets vraiment différents l'un de l'autre. Dans le premier cas, c'est un article qui a été écrit au début du mois de septembre qui disait, l'été est fini, puis là, c'est le temps de se remettre en forme. On a beaucoup bu et mangé. Mais il a fait beau au mois de septembre, alors je ne vous l'ai pas lu au mois de septembre, mais là, il commence à faire un peu plus froid, fait que je vous le lis maintenant.
Mm-hmm.
Et deuxièmement, il est arrivé une tragédie la semaine dernière sur le Mont-Royal, et j'ai un texte de réflexion à ce sujet-là. Alors, c'est mes deux articles pour ce matin.
OK. Et de mon côté, moi, je vous lis d'abord un texte de Marc Assivi qui nous parle de cycle chronobiologique et de drosophile. Alors, je vais un petit peu dans la table des sciences par le biais de Marc Assivi. Et dans la seconde partie de l'émission, je vous présente un texte de Rima El-Khoury qui nous parle cette fois-ci de formation des éducatrices des services de garde.
Fait que tu restes dans la même famille, toi, là.
Dans la même famille.
Casivi
et El-Khoury, dans la presse. Oui, c'est ça. Oui, alors c'est parti! Alors, on commence tout de suite avec ce texte de Marc Assivi, qui est effectivement dans la même famille que Rima El-Khoury, non seulement au travail, mais à la maison aussi. Le titre de ce texte, c'est « Si des prix Nobel le disent », trois petits points. Un texte qui a été publié le 8 octobre. Vendredi matin, 8 heures, ma mouche à fruits d'amour, le drosophile de mon cœur, mon petit loup de 11 ans est encore au lit. La lumière de sa chambre est allumée depuis une demi-heure et j'ai dirigé sa lampe de chevet plein axe vers son visage pour éblouir ses yeux mi-clos. Rien n'y fait. Il dort.
J'aurais pu lui dire.
Ou du moins, il feint un sommeil profond, manifestement exagéré lorsque je passe la tête dans l'embrasure de sa porte. Je lui répète le même discours depuis une quinzaine de minutes. Il ne peut plus être endormi, à moins d'être sourd. On va être en retard, tu n'auras pas le temps de déjeuner. Je vais encore être obligée de me dépêcher en auto. Tu sais comme je déteste ça, allez, debout! Pas un cil qui bouge, ni une paupière qui vacille. Ce flegme imperturbable, cette capacité naturelle à l'inertie, je l'avoue, force un peu l'admiration. Comme tous les autres matins, je me résous enfin à la formule magique. Celle qui fera en sorte qu'en moins de 2 minutes, il aura enfilé pantalon de jogging et maillot de soccer. Les chaussettes, invariablement, seront trouvées plus tard. Avant de descendre, les cheveux en bataille, les yeux dans la graisse de bine, engloutir la moitié d'un toast au beurre de peanut. La formule magique, tous tes appareils électroniques seront confisqués en fin de semaine si tu ne descends pas tout de suite, abracadabra.
Mm-hmm.
Je ne suis pas le premier à en faire le constat, l'interdiction de jouer à la Xbox et ou à l'iPod et la poudre de perlimpinpin des parents de la génération X. À 8h10, ma petite mouche à fruits d'amour a davantage les airs d'un paresseux, l'animal, accroché obstinément à sa branche qu'à un génie convaincu de l'adage « l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt ». Je lui rappelle de ne pas oublier son sac à dos ni son lunch et avant, 8h15, avec un peu de chance et de bonne volonté, nous voilà en route vers son école primaire. Je lui rappelle aussi presque tous les jours à 8h05 que son frère a quitté la maison pour son école secondaire il y a plus d'une heure, après s'être levé à 6 heures du matin, qu'il est d'ailleurs déjà en classe et que l'an prochain, à pareille date, même heure, même poste, lui-même devra être sagement assis à sa place plutôt que d'errer dans la maison à la recherche des chaussettes assorties, elles ne le sont jamais, en se brossant les dents. Je n'ose moi-même l'imaginer. Comment ce préadolescent qui n'a jamais aimé faire la sieste, même dans sa plus tendre enfance, et qui n'est jamais arrivé à fermer l'œil avant 22 heures, même en étant au lit depuis 20 heures, arrivera-t-il à adopter le rythme de vie de l'élève du secondaire typique? C'est, pour dire les choses de manière lucide, contre sa nature profonde. Je ne le dis pas pour l'excuser ou pour me dédouaner moi-même de mes responsabilités parentales. La science, Monique, la science est de mon côté. La semaine dernière, le prix Nobel de médecine a été accordé à 3 chercheurs américains qui étudient depuis 3 décennies la chronobiologie.
Ah, oui.
Les recherches de Jeffrey Hall, Michael Rosbach et Michael Young sur les drosophiles, les fameuses mouches à fruits, ont permis de mieux comprendre les mécanismes de l'horloge biologique sur un cycle de 24 heures et de déterminer, notamment, que le dérèglement de l'horloge biologique et donc des hormones qui sont sécrétées à diverses heures de la journée, variables selon l'âge et la constitution de chacun, favoriserait les maladies artérielles et coronariennes, l'obésité, la dépression, voire différents types de cancers. Lorsque notre horloge biologique est perturbée, les gènes qui régulent notre corps ainsi que nos habitudes alimentaires, notre sommeil et notre production d'hormones, le cortisol pour le réveil, la mélatonine pour le sommeil, par exemple, en subissent les contre-coups et cela a inévitablement un impact sur nos capacités cognitives. Un cerveau en manque de sommeil ralentit et ne se développe pas au maximum de ses capacités. Il n'a pas l'occasion de bien assimiler les informations accumulées pendant la journée, de faire le tri la nuit entre ce qu'il est nécessaire ou pas de retenir, la fameuse trace mnésique, ni en mesure d'absorber de nouvelles informations le lendemain. C'est d'autant plus vrai chez les enfants et les adolescents qui ont particulièrement besoin d'un sommeil de qualité la nuit afin de faire des apprentissages. Ainsi, selon différentes associations, dont l'American Academy of Pediatrics, les adolescents ont généralement une horloge biologique décalée, réglée de telle manière qu'ils sont moins éveillés en début de journée. Ils sont, en conséquence, moins susceptibles d'assimiler de nouvelles informations s'ils commencent l'école trop tôt. Leur développement neurologique peut être affecté par ce décalage dans leur cycle chronobiologique naturel, comme du reste leur réussite scolaire. De nombreux spécialistes s'entendent désormais pour dire qu'il est contre-productif d'envoyer des adolescents en classe de 8 heures. Et de plus en plus d'écoles, ici même au Québec, ont adapté leur horaire à ces nouvelles découvertes scientifiques. Dans certaines écoles secondaires de la région de Montréal, les classes débutent à 9h30, voire à 9h45. Ce n'est malheureusement pas le cas de l'ensemble des écoles secondaires, notamment du réseau public, et on se demande bien pourquoi ma petite mouche à fruits d'amour devrait pouvoir rester au lit si des prix Nobel de médecine le disent.
Ben oui.
Alors on souhaite pour lui, pour l'an prochain. Alors, Yvan, c'est l'heure de retrouver la forme.
C'est l'heure.
C'est maintenant qu'on s'y met.
Je vous le dis, tous, écoutez bien.
Oui, nous sommes attentives.
C'est le temps.
Tout oui.
Alors, c'est un article de Charles-Édouard Carrier qui faisait une collaboration spéciale dans la presse le 6 septembre. Donc, ça fait un peu plus d'un mois. Il va falloir juste ajuster vos montres, les calendriers, parce qu'il a fait beau au mois de septembre, puis on est allé jouer dehors. Alors, on va faire cet article-là comme si on était, comme si on avait fait ce décalage-là. Un été à faire la cigale, des après-midi de sangria et des soirées de festin de viande grillée. Septembre sonne la fin de la récréation. En fait, on va changer ça pour octobre sonne la fin de la récréation. Et c'est l'heure d'enfiler les chaussures de sport. Comment refaire une place à l'entraînement et aux saines habitudes dans la routine d'automne?
On se le demande.
Pour retrouver la motivation, Jonathan Lelièvre, spécialiste en psychologie du sport, parle de Y Power. Et Y, ce n'est pas la lettre Y, c'est pourquoi.
OK, la question.
Le pouvoir du pourquoi et non pas le pouvoir du mental. Pourquoi je fais ça? Pourquoi c'est important dans ma vie? Pourquoi je veux me réengager? Quand tu sais pour quelle raison tu te lèves à 6 heures du matin, puis là, je ne suis pas un préadolescent, pour aller à la piscine, ça donne plus de courage. La réponse doit être un message clair que l'on associe au gain que l'on fera grâce à l'activité physique. C'est l'étincelle. Ensuite, selon l'Organisation mondiale de la santé,
l'OMS,
il doit y avoir des prix Nobel qui tournent autour de ça. Les adultes âgés de 18 à 64 ans, donc on fait tous partie de ce groupe-là, les amis, devraient cumuler au minimum 150 minutes par semaine d'activité d'endurance d'intensité modérée. En français, 150 minutes, c'est 2h30.
Ou 5 fois 30 minutes.
Ou 5 fois 30 minutes, effectivement. Ou 75 minutes d'activité d'endurance d'intensité soutenue, donc 1h15. On peut ainsi pratiquer plusieurs activités physiques de courte ou longue durée, plusieurs fois par semaine, que l'on additionne ensuite pour atteindre les recommandations de l'OMS, si on tient beaucoup à rencontrer ces recommandations-là.
C'est une nécessité.
C'est une nécessité, merci oui. Madame la scientifique. Mais, chers amis, comment mange-t-on un éléphant?
Par petites bouchées.
Une bouchée à la fois, merci.
Ça ne me viendrait pas à l'idée de manger un éléphant.
J'ai un patron qui me répétait ça.
Ah oui, ah oui? Vraiment? Oui.
C'est les grillades de l'été là, qui reviennent. Oui. Je ne crois pas qu'il faut partir à toute allure. L'été, on a relâché un peu. Il faut y aller graduellement pour ne pas se décourager. Il faut viser des petites victoires et plus on en retire des bénéfices, plus ça incite à continuer. On parle souvent des objectifs SMART, c'est-à-dire spécifiques, mesurables, ajustables, réalistes et établis dans le temps. Jonathan Lelièvre mise plutôt sur le processus. On s'engage dans un processus ou un système qui nous amènera dans la direction dans laquelle on veut aller. C'est une question de changement d'habitude. Au lieu de dire que l'on souhaite perdre 25 livres d'ici telle date, on s'engage à faire une période de 20 à 30 minutes d'activité physique par jour. La personne se responsabilise et développe des outils. Par exemple, elle fait un X sur le calendrier et elle voit une suite jour après jour. Ce qu'on souhaite, c'est une longue séquence qui se transforme graduellement en habitude et on se motive à ne pas briser la séquence. Que l'on pratique l'activité physique à la maison, en groupe ou au gym, l'aide d'un spécialiste et d'un programme personnalisé peut faire une grande différence. C'est une question de démarche à suivre, c'est un guide. On n'a pas besoin d'avoir un entraîneur en tout temps. Je le conseille au mois ou aux 2 mois pour déstabiliser le corps et changer ou modifier les exercices que l'on est en train de faire, nous explique la kinésiologue Marie-Ève Riendeau de Kinésio Conseil. Il est parfois difficile d'arrêter un choix sur une activité physique. Marie-Ève Riendeau pose la question suivante. Puis là, j'ai déjà en tête quelques réponses. Est-ce qu'on se souvient d'un sport ou d'une activité que l'on pratiquait lorsqu'on était jeune et où on avait du plaisir? Là, répondez pas rien, tu sais.
Non, c'est ça. Il faudrait que je cherche.
C'est ça. On part de là. C'est par essai-erreur. On se donne la chance d'essayer. Et si ça ne colle pas, on essaye autre chose. Elle ajoute aussi qu'il faut voir à ce que l'activité physique laisse une trace positive au cerveau. Le fait de ne pas aimer un sport n'est pas un échec. Il s'agit simplement de trouver celui qui convient le mieux. La routine, on la retrouve aussi dans l'assiette. Pour Martine Fréchette, qui est nutritionniste diététiste du sport, cela signifie le retour des 3 repas par jour et des collations pour éviter qu'il y ait de longues heures sans nourriture. Elle recommande également de faire une plus grande place aux fruits et légumes. Dans toute l'incertitude nutritionnelle, s'il y a quelque chose qui est certain, c'est qu'un apport plus élevé en légumes et en fruits, c'est bénéfique. Les repas doivent être complets et contenir une source de protéines. Œufs, beurre d'arachide, noix, yogourt, tofu, viande, poisson, volaille, etc. La nutritionniste ajoute cependant qu'il est important de garder une petite place pour le plaisir. Grignotine salée, dessert ou petite bouchée que l'on apprécie sur la terrasse doivent diminuer en fréquence par rapport à la saison estivale sans nécessairement disparaître. Si on tombe dans trop de rectitude et si on veut tout faire parfaitement dès la première semaine, on va craquer, nous prévient-elle. Alors, c'est le temps. On peut passer à l'action maintenant. C'était l'article « Entraînement, l'heure de retrouver la forme » que vous pouvez retrouver dans la presse du 6 septembre.
Et voilà. Merci, Yvan.
T'arrives-t-il d'enrager? T'arrives-t-il d'enrager quand une voix oublie tout ce que l'on a de gagné? T'arrives-t-il de pleurer? T'arrives-t-il de pleurer quand une voix oublie ton nom sur l'échafaud? Quand une voix oublie ton nom?
D'entendre Rosie Vallant et la pièce Olympe.
Alors, Monique.
Oui.
Vaccin ou pas vaccin contre
voilà.
la grippe?
Alors, vous allez prendre cette décision à la suite oui. de ma lecture.
Nous, ça fait quelques années qu'on le prend.
Ben, vous allez voir que, En tout cas, laissez-moi le lire d'abord.
Ouais. Hein? Avant de poser des questions.
C'est ça. Alors, c'est un article de Marine Corniou qui s'intitule « Le vaccin contre la grippe au pylori » et c'était pour le Québec Science d'octobre-novembre 2017. Alors, chaque année, c'est la même chose. Quand sonnent les débuts de la saison de la grippe, fin octobre, on s'interroge devant les affiches culpabilisantes de la pharmacie qui nous rappelle de nous faire vacciner. Que risque-t-on à faire l'impasse sur la piqûre? Certes, une grippe est un sale moment à passer, mais le vaccin nous empêchera-t-il à coup sûr de tomber malade? Ces hésitations, font écho à un constat scientifique perturbant. Le vaccin contre la grippe saisonnière est loin d'être à la hauteur. En fait, il est même carrément mauvais. Pas mauvais pour la santé, mais son efficacité est mauvaise. Mmh. On a longtemps pensé que le vaccin avait une bonne efficacité. On sait maintenant que cette dernière est au mieux modérée, sinon passable, et qu'elle est surtout très variable, admet sans embâge Gaston Desserts, qui est médecin, épidémiologiste à l'Institut national de santé publique du Québec, l'INSPQ. Soyons clairs. Écoutez bien. Aussi décevant soit-il, le vaccin permet tout de même d'éviter des milliers de cas graves de grippe chaque année et donc de sauver des vies. C'est le seul vaccin qu'on a et une protection quelle qu'elle soit est toujours mieux que rien, affirment les experts interrogés. D'autant que la grippe n'est pas anodine. On recense entre 3 et 5 millions de cas sévères de grippe saisonnière chaque année dans le monde, qui entraînent environ 250 000 à 500 000 décès et donc des coûts colossaux pour les systèmes de santé. Au Canada, environ 3 500 morts seraient imputables au virus chaque hiver. Préconisée par l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, la vaccination reste donc un moyen de prévention à tout le moins utile. Mais il est loin d'être idéal. Les bonnes années, on estime que l'efficacité vaccinale oscille entre 30 et 60%.
Ça, c'est les bonnes années.
C'est les bonnes années, ce qui signifie que le vaccin prévient
La
maladie dans la moitié des cas en moyenne.
Au mieux.
Au mieux. Mais aussi, il y a des fiascos. À l'hiver 2014-2015, l'efficacité était tout simplement nulle au Québec et elle n'a atteint que 23 % aux États-Unis. Un cas exceptionnel, bien sûr, mais qui n'en est pas moins déconcertant. Vous en conviendrez, n'est-ce pas, chers amis?
Je suis déconcerté. Mm-hmm.
À cela s'ajoute le dernier flop à date, c'est-à-dire les piètres résultats du vaccin intranasal proposé aux enfants du Québec depuis 2012 et à ceux des États-Unis depuis 2003. L'an dernier, les experts des Center for Disease Control américains ont finalement déconseillé son utilisation après 3 années de contre-performance. Son efficacité a été estimée à 3 % seulement en 2015-2016. Ouais. Ça nous coupe un peu le souffle. Devant ces données presque embarrassantes, de plus en plus de voix dans la communauté scientifique remettent en question la pertinence de ce rituel annuel et appellent à la transparence. En fait, on est coincé entre deux écueils. La réalité des données scientifiques, qui risque de faire fuir les gens, à simplifier les choses, et le message de santé publique, qui vise à simplifier les choses, en recommandant la vaccination. Or, ce message n'est pas tout à fait honnête. C'est une méta-analyse publiée en 2012 j'ai ma tablette qui fait des petites...
Qui se promène là où on ne voulait pas aller.
Où on ne veut pas aller, exactement. J'ai mal placé mon doigt. Donc, qui a jeté le pavé dans la mare. Nous avons clairement surestimé ce vaccin, et nous en avons fait une promotion excessive, expliquait l'auteur du rapport Michael Osterholm, qui est le directeur du Center for Infectious Disease Research and Policy à l'Université du Minnesota. Après avoir passé en revue 31 études, son équipe avait conclu que la vaccination antigrippale n'offrait qu'une protection modérée, parfois très réduite, voire nulle selon certaines saisons. Bien pis, aucune donnée ne prouvait son efficacité chez les adultes de plus de 65 ans. Ce sont pourtant les premiers ciblés par les campagnes de vaccination. Ainsi, en 2015-2016, 52% des Québécois de plus de 60 ans ont reçu le vaccin. C'est quand même des données qui nous jettent un petit peu à terre. Malgré des suivis extrêmement serrés, il reste extrêmement ardu d'estimer la performance de ces vaccins. C'est difficile pour un tas de raisons. Les épidémies ne se ressemblent pas, sont d'intensité variable, peuvent toucher des groupes d'âge différents et en plus, les souches virales qui circulent ne sont pas toujours celles contre lesquelles le vaccin a été protège.
Ah oui.
Pour comprendre, il faut se souvenir qu'il existe plusieurs virus de grippe. Ceux qui causent des épidémies saisonnières chez l'humain sont les virus de type A et B. Et parmi ceux du type A, il y a les sous-types H1N1, on se rappelle, H1N1 2009,
oui, tout à fait.
Et H3N2 qui circulent le plus. Cerise sur le gâteau, ces bestioles mutent constamment, d'une année à l'autre et même entre le début et la fin de l'hiver. Elles se métamorphosent. Il faut donc, chaque année, produire un nouveau vaccin qui intègre les changements génétiques des différents virus en circulation. Suite après la pause.
Oui. Alors, on a hâte, vraiment. Est-ce qu'on a peut-être quelques brèves?
Une petite brève. Ouais. Alors, c'est l'événement Courir dans les sentiers du Mont-Royal qui va avoir lieu le 22 octobre. Il y a 1600 coureurs qui sont attendus au 8e marathon du Mont-Royal, qui proposera plusieurs parcours dans ces sentiers variant de 1 à 42 km. L'événement est idéal autant pour les habitués que pour les gens qui désirent s'initier à ce type de course qui allie cross-country et course en montagne.
C'est bien, intéressant. Et moi, j'ajoute un petit mot d'enfant. On parle de grippe, on parle de mouchoir. Selon Louis, 5 ans, un mouchoir, c'est un bébé fantôme.
Oh! Oh!
Alors, on se revoit après la pause. À tout à l'heure.
Sur ce rocher dans les broussailles, au vent d'avril, je suis monté. Il fait plus chaud sur la montagne, j'ôte la veste et le chandail. Y a que la brise et les oiseaux, plus de klaxons ni de moteurs. Sur le grand lac, plus de bateaux, seulement la cognée de mon cœur. Il serait arrivé quelque chose, bombe atomique, jugement dernier. Vous seriez parti pour le ciel et le sort m'aurait épargné. Près de la piste désertée, seulement l'abeille qui bourdonne. Aucun chalet n'est occupé et c'est étrange, je me sens comme le dernier homme. Comme s'il n'y avait plus personne, comme si tu m'avais oublié. Comme le dernier homme, comme le roi ou l'astronome, sur sa planète abandonnée. J'irai jusqu'à la prochaine ville, j'aurai ma chambre et ma bouteille. À l'horloge aux bras immobiles, je t'attendrai dans mon sommeil.
j'irai marcher dans le désert, là où le soleil nous assomme. Je m'étendrai les yeux ouverts, nu et brûlé, je serai comme le dernier homme, comme s'il n'y avait plus personne, comme si tu m'avais oublié. Comme le dernier homme, comme le roi ou l'astronome, sur sa planète abandonnée.
D'entendre Pierre Flynn et Le Dernier Homme.
Voilà, alors on se retrouve, Monique. On a hâte d'avoir la suite de ce texte sur la grippe.
Je poursuis donc. Alors, le virus, on l'a compris, est imprévisible et notre capacité à prédire son évolution est médiocre. Chaque année, en février, l'OMS devine. Et, entre parenthèses, et c'est vraiment une devinette, fermeture de la parenthèse, à partir des virus grippaux qui circulent dans l'hémisphère sud. Quelles seront les souches qui causeront l'épidémie l'hiver suivant dans l'hémisphère nord? Petit exemple, en 2014, on a prédit que les souches viendraient d'Asie. Oups, elles sont venues d'Australie. Alors on s'est complètement planté. Donc, même si on vise juste, et que ce sont bel et bien les souches prévues qui attaquent, difficile de prédire l'efficacité des vaccins qui seront mis sur le marché à l'automne. Car il y a des années où le H3N2 domine, d'autres où c'est le H1N1 ou le type B. Et pour des raisons obscures, le vaccin protège en général moins bien contre le H3N2 que contre le H1N1. Alors, je ne sais pas cette année, ça va être quel, le A ou le B.
Mais c'est une loterie.
C'est une loterie.
Oui. Mais est-ce que tu sais si on peut mettre plus qu'une souche dans le vaccin?
Non, je ne sais pas. Okay. Désolée.
Okay.
Et ce n'est pas tout. La durée de l'immunité conférée par le vaccin est sujette à débat. Certaines études suggèrent que ceux qui se font vacciner en début de saison ne sont plus protégés en mars ou avril, parce que le virus a eu le temps de changer. Donc, ça nous complique encore plus les calculs. Dans ce brouhaha de données, comment prendre une décision éclairée? Faut-il vacciner tout le monde? Doit-on protéger certains groupes en priorité? Les pays ne s'entendent pas sur ce point et leur stratégie vaccinale diffère. Ainsi, les États-Unis prônent depuis 2010 la vaccination pour toute la population. Le Québec, lui, se contente d'offrir la vaccination gratuite aux personnes à risque, soit celles qui sont âgées de plus de 60 ans, les femmes enceintes, les malades chroniques, les enfants de 6 à 23 mois, l'entourage de tout ce beau monde et les travailleurs de la santé. Cela dit, tous sont bien sûr invités à se faire immuniser. Chez les personnes âgées, il reste toutefois une arme utile. Donc, on se souvient de ça, c'est quand même utile. Car ce groupe, surtout chez les plus de 75 ans, est particulièrement à risque de souffrir de complications liées à la grippe, notamment des troubles respiratoires. On estime qu'entre 70 et 85 % des décès causés par le virus surviennent chez les plus de 65 ans. Le vaccin est très bien toléré. On n'a donc pas de scrupules à vacciner les personnes âgées car le rapport bénéfice et risque reste quand même en faveur de la vaccination. Donc, il y a quand même un bémol au pilori.
Les personnes âgées et leur entourage.
Oui, bien sûr. Oui, parce qu'on le suggérait tout à l'heure. Quant à la pertinence de vacciner les enfants, il y a davantage de débats. Lâche toutefois notre monsieur de Serres, là, de l'INSPQ. Pour les adultes en bonne santé, si on se fait vacciner chaque année pendant 40 ans avec un vaccin qui protège à 50 % et un risque de contracter la grippe de 3 % à 5 % chaque saison, on évite en moyenne un seul épisode de greffe. Bref, au lieu d'attraper deux fois en 40 ans, on l'aura qu'une fois. C'est un bulletin, on peut dire, pour le moins mitigé.
D'accord. Okay.
Dans la confusion générale, un consensus émerge. Tout le monde est désormais conscient du fait, constate Michael Orston, notre monsieur de l'Université du Minnesota, notre Saint Graal, c'est le vaccin universel. Entendez là, un vaccin antigrippal efficace contre toutes les souches virales saisonnières et pandémiques. Mmh. Et le pire, bon, et surtout que si on n'a pas un tel vaccin, la réputation des vaccins est ternie en général par l'inefficacité de ce vaccin antigrippal. Donc, elle jette le discrédit sur l'ensemble des vaccins et notamment les vaccins infantiles dont l'efficacité est excellente et la pertinence incontestable. Certains chercheurs pensent même que cette surestimation du vaccin antigrippal a freiné le développement de solutions plus efficaces. Chaque année, les gouvernements dépensent des milliards de dollars pour acheter ces vaccins, alors que les sommes allouées au développement de nouveaux outils représentent une fraction de ce budget. Selon l'Agence de la santé publique du Canada, pour la saison de la grippe 2016-2017, les provinces, territoires et certains ministères fédéraux ont acheté environ 11,6 millions de doses de 7 vaccins contre la grippe auprès de 5 fabricants différents à un coût total de 76,9 millions de dollars.
Aïe, 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 quand même.
Pour les manufacturiers, toujours ces gens, la garantie d'une piqûre annuelle représente un marché mondial de plusieurs milliards de dollars. Alors, c'est pour cette raison que notre monsieur Michel Osterholm appelle à la création d'une initiative mondiale, comme celle qui a vu le jour pour le VIH, l'International AIDS Vaccine Initiative, pour coordonner les efforts de recherche. La science est prête. Mais elle attend l'investissement. Et il y a urgence. Imaginez les dégâts que pourrait faire une vraie pandémie grippale. En 2009, lors de la crise du H1N1, on a mis 6 mois pour fabriquer un vaccin peu efficace. Ce ne sera pas différent la prochaine fois si on n'agit pas.
Et on veut être prêt.
Ben, en fait, les scientifiques veulent être prêts. Mais les pharmaceutiques, qui souvent investissent pour le développement de nouveaux vaccins, ne sont peut-être pas prêtes à investir.
Il y a peut-être un conflit d'intérêts.
Peut-être. Alors, j'espère que cet article de Marine Corniou pour Québec Science d'octobre-novembre 2007 aura éclairé vos lanternes et vous permettra de prendre une décision éclairée.
Éclair. Merci, Monique. donne la parole, on lit le texte de Rima El-Khoury, maintenant un texte qui a été publié dans la presse le 10 octobre. Et le titre de cet article, c'est « Oups, on a oublié les enfants ». Rima El-Khoury a déjà écrit un article avec le même titre. C'est comme une suite, finalement. Mm-hmm. Accepterait-on de confier sa voiture à un garagiste qui n'a pas la formation nécessaire pour en prendre soin? C'est pourtant ce que l'on fait avec nombre d'enfants confiés à des services de garde que l'on dit éducatifs. De mon point de vue, c'est inacceptable, mais cela ne semble choquer personne. Et c'est pas moi qui le dis, c'est Marianne Schneider, qui est éducatrice au CPE Les Enfants de l'Avenir à Pointe-Saint-Charles. Marianne a invité Mme El-Khoury à passer une journée avec elle au CPE dans l'espoir de démystifier deux ou trois choses à propos de son métier qu'elle adore. Un travail aussi formidable que méconnu que l'on confond à tort avec celui de gardienne d'enfants. Voilà 20 ans que le programme universel des services de garde a été mis sur pied au Québec. Et voilà 20 ans aussi que Marianne se bat pour que tout le personnel éducateur ait la formation requise pour veiller au développement des enfants. On aimerait croire que le Québec est aussi fou de ses enfants que l'est Marianne avec ses 7 petits qu'elle a amenés à la bibliothèque ce jour-là. On aimerait croire que la qualité des services éducatifs est une priorité pour notre société. Mais si c'est le cas, comment se fait-il que l'on tolère que seulement 2 membres du personnel sur 3 dans les CPE et les garderies aient un DEC en technique d'éducation à l'enfance ou une équivalence reconnue? Je n'amènerai pas ma voiture chez un garagiste pas formé. Pourquoi on accepte ça pour les enfants? Demande Marianne. Au CPE où elle travaille, on ne l'accepte pas. On a fait de la formation du personnel et de la qualité des services offerts une priorité. Mais selon le type des services de garde au Québec, on note des écarts importants. Alors que 82% du personnel éducateur en CPE est qualifié, la proportion tombe à 44% en garderie privée non subventionnée. Et la source de cette donnée-là, ce sont des données de 2013, qui sont cités dans le mémoire du directeur régional de la Santé publique de Montréal, déposé à la Commission sur l'éducation à la petite enfance.
Ça ne s'est donc pas amélioré.
Et non, pas tellement.
Il y a plus de garderies privées maintenant qu'en 2013.
Et c'est ce qui est décourageant. Et si les études montrent que les CPE offrent en général les services éducatifs de meilleure qualité que les garderies à but lucratif, il reste que la majorité des enfants fréquentent malheureusement des services de garde de qualité passable. Pourquoi ne pas uniformiser et rehausser les exigences pour toutes les éducatrices? Il s'agit là d'une recommandation de la Commission de l'éducation à la petite enfance, lancée l'an dernier par l'Association québécoise des CPE et chapeautée par l'Institut du Nouveau Monde. Dans un rapport déposé en mai 2017, c'est tout récent, la Commission recommande d'exiger un DEC en technique d'éducation à l'enfance comme formation initiale de base pour tout le personnel. On propose aussi que la formation continue, basée sur les meilleures pratiques, soit obligatoire. Pourquoi est-ce important? Parce que la science, encore la science, nous dit que les premières années sont fondamentales pour le développement des enfants. Plus on intervient tôt, meilleures seront les chances de prévenir les problèmes de développement et de favoriser l'épanouissement de l'enfant. Mais pour y arriver, cela prend plus que du gardiennage. Cela prend des services éducatifs de grande qualité, des professionnels comme Marianne et ses collègues, capables de stimuler le développement global de l'enfant, de faire du dépistage précoce et de favoriser l'égalité des chances. Dans un milieu multiethnique et défavorisé comme Pointe-Saint-Charles, par exemple, ça peut faire toute la différence dans la vie d'un enfant. D'origine française, Marianne est arrivée au Québec il y a plus de 20 ans avec un diplôme en sciences de l'éducation et un autre en musique. Son diplôme en musique a été reconnu, mais pas celui en éducation. Pour pouvoir travailler auprès des enfants comme elle le souhaitait, elle a obtenu ici un certificat en petite enfance. Dans un monde idéal, elle souhaiterait que toutes les éducatrices est une formation universitaire, comme c'est le cas en Suède, par exemple. Les enfants de 3 ans dont elle a la responsabilité ont la chance de pouvoir compter sur une éducatrice passionnée qui les initie à la musique classique. Mais l'essentiel de sa mission est ailleurs. Il ne s'agit pas de faire la petite école aux enfants ou de les surstimuler, mais de suivre un programme axé sur les 5 sphères de développement des tout-petits. Affectif, social et moral, cognitif, langagier, physique et moteur. Notre rôle, dit-elle, c'est de veiller à ce qu'ils se développent de la façon la plus équilibrée possible et en sécurité. Ce n'est pas quelque chose qui paraît comme du découpage ou du dessin. L'essentiel, c'est surtout ce qui ne paraît pas, comme le fait de développer la confiance en soi, par exemple. Et c'est Mme Schneider qui mentionne ça. Le ministre Sébastien Proulx, qui a été renouvelé dans son mandat, dit vouloir faire de la qualité des services éducatifs à l'enfance une priorité. Fort bien. Dans le cadre de sa politique de la réussite éducative, il dit spécifiquement vouloir renforcer la formation initiale et continue du personnel scolaire et du personnel des services de garde éducatifs à l'enfance. Fort bien aussi. Mais, curieusement, il n'y a pas un mot à ce sujet dans le projet de loi 143 sur la qualité éducative des services de garde dont on discutera en commission parlementaire dans les semaines qui viennent. Si la qualité éducative pour les tout-petits n'est pas qu'un vœu pieux, pourquoi ne pas s'assurer que 100% du personnel soit adéquatement formé? N'est-ce pas le strict minimum? Et c'est la question que pose Rima El-Khoury dans son texte « Oups, on a oublié les enfants » publié dans la presse le 10 octobre. Alors, Yvan, tu nous présentes un texte qui n'est pas facile, mais qui est, à mon sens, essentiel.
Oui, c'est un texte important que j'endosse pleinement, autant parce que je suis cycliste que j'ai roulé sur la montagne, que je suis automobiliste. Alors, je vais lire le texte que tu m'as suggéré, Marie, qu'on trouve dans le blog de Vélomag, sous la très belle plume de David Desjardins. Ça a été écrit le 7 octobre, donc il y a quelques jours seulement, et ça s'appelle « Il faudra encore trop de morts ». Le décès du jeune Clément Ouimet m'enrage, parce qu'il me rappelle que si notre imprudence en voiture n'est pas nécessairement criminelle, celle-ci relève d'un mode de vie où l'insouciance est devenue une excuse acceptable en toutes circonstances, y compris lorsqu'on met la vie des autres en danger. Au moment d'écrire ceci, j'ignore beaucoup de choses à propos de cet accident dans lequel a péri un jeune cycliste à Montréal. Je ne sais pas dans quel état d'esprit était le conducteur, ni pourquoi il a tourné ainsi à 180 degrés pour revenir sur ses pas. Je peux seulement présumer qu'il cherchait un moyen d'échapper à l'immonde bête qu'est le trafic automobile. Un monstre qui possède un étrange pouvoir sur les gens. Lorsque vous en soutenez trop longtemps le regard, il peut vous rendre un peu con. Mais encore, répétons, je spécule. Je ne sais rien de cette personne ni de ce qui se passait dans sa tête. Était-elle distraite, anxieuse, triste, fatiguée, en retard? Peut-être est-elle habituellement d'une extraordinaire prudence? Ou pas. Je sais seulement que l'automobiliste avait 59 ans, qu'il a effectué une manœuvre illégale, mais surtout bien imprudente, dans Camillien-Houde. Et aujourd'hui, le jeune Clément Ouimet est mort. Il aura 18 ans à jamais. 18 ans. Je ne sais rien du conducteur de ce véhicule, sinon qu'il n'a sûrement pas vu Clément. C'est toujours ce qu'ils disent. « Excuse, je t'ai pas vu. » Ça m'est arrivé aussi, remarqué. Une fois, je roulais en auto sur Saint-Laurent. Il y avait un gars en vélo derrière moi. Il apparaissait de temps à autre dans mes rétroviseurs. Puis il devait être dans mon angle mort quand je me suis rangé à droite pour me stationner. Il a failli s'encastrer dans l'auto. Je me suis excusé à profusion. Il n'était pas très prudent pour lui de me suivre de si près, mais j'avais mal regardé avant de me ranger. Et comme j'étais au volant d'une tonne de ferraille, je considérais que c'était ma responsabilité de m'assurer que ma manœuvre était sans danger pour quiconque. La faute m'incombait entièrement. Je lui ai un peu parlé, me suis excusé 8 ou 10 fois, mais je me sentais coupable. Et s'il avait glissé sous mes roues, qu'est-ce que j'aurais dit à sa famille? Que je ne l'ai pas vu parce que j'ai mal regardé? Nous menons ces vies à des rythmes indécents, une pornographie de vitesse et d'intensité, de retard et de distraction qui font de nous des monstres de procrastination en sprintant d'un lieu à l'autre dans un état de perpétuel retard. Et comme nous ne prenons plus le temps de rien, pourquoi en serait-il autrement sur la route? J'entends donc la même excuse des dizaines de fois par année, mais elle m'écœure. Comme si la distraction pouvait nous dédouaner de tout, comme si nous avions le droit de conduire une voiture comme on marche sur le trottoir. Récemment, c'était à la sortie du Canac, sur de l'Étrière à Saint-Augustin-de-Desmaures, dans la région de Québec, le type en VUS a surgi du stationnement sans même regarder de mon côté. Je roulais à vélo presque au milieu de la voie, dans le bon sens, impossible d'être plus visible. J'ai hurlé. Il a pilé sur le frein et m'a évité d'un mètre à peine. Puis il s'est glissé à ma hauteur, plus loin sur la route, a baissé la vitre côté passager et le plus poliment du monde s'est excusé. « Excuse-moi, je t'avais pas vu. » J'ai explosé. « C'est ça que t'aurais dit à ma blonde et à ma fille au salon funéraire si tu m'avais tué? Excusez, je l'avais pas vu? Fuck! T'as même pas regardé de mon bord avant de te crisser dans le chemin. » Il a accusé le coup, remonté sa fenêtre, accéléré doucement, puis il a disparu au carrefour suivant, dans l'odeur de pelouse fraîchement coupée et le monoxyde de carbone. J'étais furieux contre lui, contre moi, contre nous. Furieux pour toutes mes propres imprudences, pour les fois où nous mettons la vie des autres en danger par notre insouciance. Et je suis en colère aujourd'hui parce qu'un conducteur devra affronter une famille en lui disant qu'il n'avait pas vu Clément. Je fulmine enfin parce que le décès de ce jeune homme ne nous guérira pas de notre bêtise. Oh oui, nous évoluons, mais avec une lenteur tragique, car il faudra encore bien trop de morts pour que nous apprenions à vivre.
Ah, c'est beaucoup de colère, hein? Mais beaucoup de colère du cycliste autant que de l'automobiliste.
Oui, oui, oui. C'est pas une colère qui est unidirectionnelle. Là. C'est vraiment une colère qui touche plusieurs domaines. Ouais. Ce qui m'a frappé dans ce texte-là, c'est la colère par rapport à notre mode de vie.
Oui, c'est sûr. Ouais. Trop pressé.
Où on a l'air toujours en retard de quelque chose, puis il faut toujours se dépêcher pour arriver quelque part.
Alors, prenons le temps. Prenons le temps.
Un petit peu.
Aujourd'hui.
Oui.
Alors, quelques brèves.
Alors, se laver avec de l'eau chaude ou de l'eau froide?
Ah bon? De l'eau chaude?
Ah, ben l'eau chaude vous paraît laver mieux.
Oui. Ouais.
Pourtant, une équipe américaine de l'Université de Rutgers a montré qu'elle n'est pas indispensable pour se laver les mains. Alors, 20 participants dont les mains avaient été salies à l'aide d'une bactérie inoffensive ont testé à 20 reprises, 3 températures de lavage, 38 degrés, 27 degrés et 15 degrés Celsius. Le comptage des bactéries après lavage a révélé que l'eau chaude n'apportait pas une meilleure hygiène des mains. Utiliser un savon antibactérien, non plus. Par contre, la durée du lavage est un paramètre déterminant. Frotter les mains pendant 20 secondes plutôt que 5, multiplie par 5 la quantité de germes éliminés.
Oh, oh bon, oh, OK.
D'accord? Alors,
on va mettre ça en pratique. Hein?
C'est bon à savoir.
Oui. Yvan?
Le chiffre de la semaine, mesdames.
Oui, on est curieux.
Alors, le chiffre de la semaine, c'est 3000.
Ah,
3000.
J'essaie de voir une réponse. Il n'y en a pas. C'est bon.
Donne-nous un indice.
C'est le nombre d'étoiles qu'on peut voir à l'œil nu dans la réserve internationale de ciel étoilé du Mont Mégantic.
Ah, c'est bon. Alors, déplaçons-nous vers le Mont Mégantic.
Oui, tout à fait.
Alors, voilà, c'est tout le temps qu'on a pour aujourd'hui. On vous remercie d'avoir été à l'écoute. Merci, chers collaborateurs, Yvan, Monique, d'avoir été là. Merci. Monique, on vous retrouve la semaine prochaine.
Oui, c'est sûr.
Yvan, on prend une pause la semaine prochaine, mais on vous retrouve l'autre semaine après.
Oui, c'est ça.
Et d'ici là, soyez heureux, au plaisir.